Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séances Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Alors Antoine, dans votre histoire du cinéma, on parle des grands studios hollywoodiens.
Oui, alors ça va être l'histoire de cinéma de Patrick Brion aujourd'hui, parce que là, sous la main, on va en profiter. Et je crois que l'une des caractéristiques de l'âge d'or d'Hollywood, c'est évidemment le fait qu'il y avait à l'époque 8 studios qui dominaient le cinéma, avec 5 d'entre eux qui étaient plus importants. Et c'était des studios qui possédaient tout. En réalité, ils possédaient les plateaux, ils salariaient les réalisateurs, ils salariaient les comédiens, les costumiers, les directeurs artistiques, les maquilleurs, les techniciens. Enfin, c'était une espèce d'industrie dans laquelle il existait ça et là des freelances, mais enfin globalement l'industrie était entre les mains de ces studios. Et ces studios restent encore, pour un certain nombre d'entre eux, les grands noms de l'industrie du divertissement et de la production cinématographique. Et c'est ainsi, par exemple, que l'empire de l'Australien Murdoch, c'est la Fox. Aujourd'hui, ça s'appelle la 21st Century Fox, parce que on est au 21e siècle, mais elle s'appelait avant la 20th Century Fox, et donc elle avait été rachetée par Murdoch. C'est sa continuation qui existe aujourd'hui sous le nom de Fox du 21e siècle. Et figurez-vous que pratiquement toute la Fox, à l'exception de quelques journaux et des chaînes de télé généralistes, vient d'être rachetée, ou en tout cas va être rachetée, parce qu'il faut quand même que les instances antitrust se prononcent avant que la transaction soit totalement bouclée. Donc on a la Fox qui va être rachetée par Disney pour 66 milliards de dollars, transaction considérable, et donc qui a des conséquences amusantes, puisque par exemple est ressorti récemment All About Eve de Mankiewicz, film de la Fox avec Bette Davis, et donc Bette Davis va se retrouver, si je puis dire, à l'insu de son plein gré, comme une actrice Disney. Donc voilà, on a une transformation a posteriori du paysage du cinéma et des studios qui est tout à fait étonnante. Et donc on s'est dit, puisque vous étiez là, Patrick Brion, qu'on allait vous faire parler un peu des différents studios qui avaient caractérisé Hollywood, parce que l'une des caractéristiques de votre œuvre, hein, à la fois de votre œuvre en tant que programmateur du cinéma de minuit, mais aussi de votre œuvre très importante en tant qu'auteur et historien, très souvent, l'une des choses passionnantes, c'est votre regard très pointu sur la ligne éditoriale des studios. Et donc, puisqu'on parle de la Fox, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de la Fox à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood? Qu'est-ce qui la caractérisait?
Les studios, c'était une ville. C'était une ville dans une ville. Plutôt de parler de la Fox, on parlera après, on va parler de la MGM, que je connais encore mieux.
Alors, sur la MGM, alors je voulais vous interroger aussi sur la MGM, bon. mais on peut commencer par la MGM.
D'accord.
Mais alors sur la MGM, moi j'ai une question tout de suite.
Allez-y.
Qui est que la MGM, on l'a définie comme l'usine à rêve d'Hollywood, on dit c'était le studio qui voulait absolument présenter une vie magnifique, avec des femmes merveilleuses, des coiffures extraordinaires, une espèce d'ordonnancement de la beauté et du cinéma parfaitement réglé. Et en même temps, quand on lit attentivement Patrick Brion, on voit qu'il y a quand même deux choses qui apparaissent très fortement dans la MGM. C'est d'abord la passion d'un certain nombre de gens qui avaient fait la MGM pour l'Europe et donc une vision beaucoup plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Et puis aussi, un truc qui n'est pas tellement connu, le fait qu'à certaines époques de la MGM, il y avait une fibre relativement sociale et qu'il y a eu des films qui étaient beaucoup moins des films de simple usine à rêve qu'on l'a dit quelquefois.
Ce qu'il ne faut pas oublier, les grands studios produisaient en gros 52 films par an, de façon à alimenter chaque semaine, avec un nouveau film, leur circuit. Et là, il faut un instant parler des circuits. La chance qu'avaient les grandes compagnies de cinéma, c'est d'avoir leur salle. C'était le vieux trust vertical. Vous produisez un film, vous le distribuez vous-même, vous l'exploitez dans vos salles. Alors, on ne va pas parler longtemps de la loi antitrust, mais le problème, c'est quand
Vous pouviez même vendre les films par paquet.
Oui, quand la loi Sherman a été appliquée, alors je ne sais pas si ça a été une bonne chose d'appliquer la loi Sherman antitrust à l'industrie aéronautique ou à l'industrie des voitures, ce n'est pas mon problème, je n'y connais rien, à l'industrie cinématographique, ça a été catastrophique. Parce que vous privez des studios qui produisent des salles de cinéma où ils vont passer leurs films. Et à ce moment-là, ils avaient la chance de pouvoir prendre tous les risques possibles. La MGM, on disait, ah mais ça c'est un circuit. En effet, il faut que les femmes soient jolies, il faut qu'il y ait des histoires avec les enfants, etc. Louis B. Mayer, il n'aimait que ça. Qu'est-ce qu'a produit Fricks ? Ce film qui est joué uniquement par des créatures victimes de malformations et qui est un film poétique justement, qui est le plus beau film sur le droit à la différence. C'est la MGM. Ces films, on pouvait prendre des risques à partir du moment où on était sûr que le film sera exploité. Alors, il sera exploité moins longtemps qu'un autre. Mais Fricks, au départ, moi, j'ai un programme de Fricks. Fricks, il passe en même temps qu'un petit polar. Il a toutes les chances. Alors, c'est sûr que vu son sujet, il aura la chance va aller en diminuant. Mais au départ, il a eu les mêmes chances. Et c'était, si on parle de la Fox, c'est la même chose. On pouvait prendre des risques. L'application de la loi Sherman a empêché d'appliquer les risques. Alors, je reviens au studio. Si vous prenez la MGM, il y avait 5000 personnes. Ces personnes vivaient entre elles. Alors, je ne vais pas faire un numéro de pipeau en disant que c'était une grande famille, mais c'était une grande famille. Parce que ces gens, ils déjeunaient à la cantine tous ensemble. Par secteur, les scénaristes déjeunaient entre eux, les dessinateurs de dessins animés déjeunaient entre eux. Il y avait une émulation formidable. Il y avait un travail exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de la MGM pour Paris, Robert Lacoste, avant qu'il meure, il y a une trentaine d'années. Il m'a dit que la MGM pouvait tourner en autarcie pendant 5 ans. On a 5 ans en autarcie complète. Tourner les 52 films par an. Le seul problème, c'était la nourriture. Parce que la nourriture, il fallait que ce soit frais. Il fallait faire de la nourriture. Mais en revanche, les décors, il n'y avait pas de problème. Le balsa, le bois, il y avait tout ce qu'on voulait. Les costumes, il y avait tout ce qu'on voulait. Ou en costume déjà fait, ou en matière pour faire les costumes. Et tout était comme ça. Quand vous voyez les photos des ateliers de costumes, c'est hallucinant. Quand il y a eu, en 70, Kirk Kerkorian, qui était un magnat qui vient de mourir il y a quelques semaines, a acheté la MGM. Et il a décidé à ce moment-là, parce que c'est un homme qui n'aimait pas le cinéma, que ça ne devait plus être une compagnie de cinéma, mais une compagnie hôtelière. Donc, il a vendu. Il a vendu les terrains. À ce moment-là, on a cassé la maison de Judy Garland dans Andy Hardy, on a cassé toute la piscine de Esther Williams, etc. On a tout cassé, parce que c'était construit en dur. Et on a organisé une grande vente, ça s'appelle la vente Weiss. La vente Weiss, il y avait 70 000 lots. 70 000 lots. Et ça allait des costumes de Clark Gable, de Greta Garbo, de John Crawford, ou de qui vous voulez, à un mobilier exceptionnel. Pour tourner Marie-Antoinette, le film de Van Dyck avec Norma Shearer et Tyrone Power, ils ont fait venir de France des pièces authentiques que des antiquaires ont acheté à bas prix d'un coup. Pour tourner Antise de Cukor ou le portrait de Dorian Gray d'Albert Lewin, ils ont fait venir un mobilier victorien. Ils n'ont pas fait venir 3 tables, ils ont fait venir des centaines de pièces. Et ces centaines de pièces, on l'a vu quand on voit le catalogue de la Van Weiss, d'ailleurs, enfin c'est 5 catalogues, c'est un crève-cœur parce qu'on sent tout un patrimoine qui est qui a été dispersé. Certaines choses sont parties assez chères. En effet, on sait très bien les petites chaussures de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz ont été vendues très chères, etc. Mais le reste est parti pour une bouchée de pain. Des pièces admirables. Et il y avait à ce moment-là un travail qui était fait en amont du film. On faisait des dessins d'atmosphère sur les films pour déterminer le look. Vous donnez juste un simple exemple. En 36, il décide de tourner le Roméo et Juliette, Cukor qui doit réaliser. Il y a trois gros books, et je les ai vus, donc trois gros books qui sont faits d'une trentaine de dessins chacun, dans des styles complètement différents, pour voir quel est le look qu'on va donner au film. Alors, ils sont pas signés, les books.
C'est Cédric Gibbons qui est le directeur artistique qui l'a choisi.
L'un des books, c'est Oliver Messel, celui qui va être le décorateur de Roméo et Juliette, donc ça on le reconnaît. L'autre books, il est dans un style art déco, très, très schématisé. Et le troisième, dans un style Piranesi, très, très noir. Ils ont dû, sur trois murs d'une pièce de la MGM, mettre tous ces dessins. On faisait venir Cukor, Evan Thalberg, le producteur, William Daniels, le chef-op, Cédric Gibbons, le responsable artistique. On va choisir quel look on donne au film. Alors, pas art déco, pas Piranesi, on va choisir donc ce qu'a signé l'autre, et hop, et on y va. Il faisait, pour certains films, alors les grands studios le faisaient, la MGM, la Fox, la Warner, mais surtout la MGM, il faisait souvent des centaines de dessins. C'était des tableaux en couleur, au fusain, en noir et blanc, pour essayer de déterminer comment allait être tourné le film. Et ensuite, on appelait réalisateur.
Et alors, la Warner, elle avait une ligne éditoriale qui était plus naturaliste, qui était plus populaire.
La Warner était très proche de Roosevelt, de l'organisation Roosevelt. Donc, c'est eux qui ont le mieux couvert la grande crise économique. À tel point que dans une des comédies musicales, qui est les Gold Diggers de 1933, il y a un numéro qui s'appelle Remember the Forgotten Man.
Ouais, avec John Blondell.
Absolument, qui montre le drame des gens qui sont revenus de la guerre et qui n'ont pas de boulot. C'est ça le Forgotten Man. C'est le type qu'on oublie dans une Amérique qui n'est plus la grande Amérique du rêve doré. Il y a des malheureux qui sont là à crever de faim le long des voies ferrées. C'est ce qu'on voit dans Je suis un évadé, dans des films comme ça. Ça, c'est le style Warner. Et ça ira aussi loin, à tel point qu'ils sont tellement proches de Roosevelt qu'ils vont faire des films ouvertement pro-communistes au moment de la guerre. Et Mission to Moscow, de Curtis, qui a un film invraisemblable, puisqu'il justifie Staline, présenté comme vraiment le petit père du peuple, comme les communistes l'envisageaient à l'époque. Il justifie le projet Tukhachevski, etc., disant Tukhachevski, c'était un ignoble trotskiste stipendié par les nazis.
Eh bien, Patrick Brion, Antoine Cyr, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'histoire des grands studios.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Next épisode, votre émission 100% série.
J'ai vu le jour sur Terre.
Je veux changer le pays, Daniel. Le transformer vraiment.
Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre.
Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi.
Qui t'a parlé des législatives ? Je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée.
Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.